suis fier d'habiter ici. C'est un putain lice rouge, mais c'est pareil.
En fait, tout le quartier Mistral se connaissent.
Presque tous.
Si je déménage, ben je suis triste parce qu'il est trop bien ce quartier et mes copines, je les retrouve en fait, plus.
I love you, Mistral.
Bah ouais, moi j'aime Mistral. Hein.
C'est mon quartier, je suis née ici.
Le quartier pour Mistral, il y a une bonne soudure entre les voisins et les voisines. On est solidaires entre nous.
Ouais, mais Mistral, c'est bien. C'est, pour moi, Mistral, c'est bien.
Bonsoir et bienvenue sur le plateau radio Mistral, on en parle. Donc, dans cette émission, nous avons l'honneur de recevoir des membres du Coamis, enfin Karim en fait, qui est membre du Coamis. Et nous recevons aussi quatre jeunes filles qui sont en train de fonder leur junior association. Elles nous expliqueront ce que c'est, qui s'appelle Maya. Donc bonjour, bonsoir. On est réunis aujourd'hui pour ce plateau radio suite à une série de reportages qui ont été menés ici, donc dans le quartier Mistral, pendant les mois de septembre, d'octobre et de novembre. Et pendant ces derniers mois, la web radio La Voix des gens, donc, dont Raled et moi-même faisons partie, nous avons accompagné des capseurs, ici présents dans la salle et sur le plateau, dans la réalisation d'interviews à l'occasion d'activités qui se déroulaient sur le quartier, et notamment dans le cadre du train d'action qui est organisé par la ville de Grenoble et la métro, avec différentes activités. Donc en fait, c'était une opportunité pour ces mystérieux capseurs, et j'espère que vous avez bien répondu au petit papier à l'entrée, de découvrir un média, la radio, mais surtout d'aller à la rencontre des habitants du quartier. En ce début de soirée, dans Mistral on en parle, on va discuter avec nos invités ici présents, avec le public, c'est-à-dire vous, et à partir de l'expérience qu'on a vécue pendant ces reportages. Donc il y aura des moments d'interview, des moments d'écoute d'extraits de reportages et des moments où on vous donnera la parole. Donc je laisse la parole à Nabila et Hugo.
Bonsoir à tous, je m'appelle Nabila et je suis ici avec Hugo. Alors pour commencer, on voudrait essayer de clarifier ce que signifie le mot capseur, puisqu'on a parlé de reportages qui ont été réalisés par des capseurs. Et du coup, c'est Juliette, notre invitée surprise, qui va nous présenter les réponses que vous avez données à cette question, du coup, à qu'est-ce qu'un capseur ? Bonsoir Juliette.
Bonsoir. Alors, vous avez donné des réponses super intéressantes, hein. Il y a des choses qui se complètent, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Et donc, il y a une bonne partie d'entre vous qui ont dit que les capseurs, c'était des étudiants. Alors, ça, a priori, c'est pas complètement faux, hein. Ouais, en fait, il y a une partie d'entre nous qui est étudiante et une autre partie qui sont des jeunes travailleurs ou des services civiques. Donc ensuite, il y en a d'autres qui ont complété avec le fait qu'on était dans le quartier avec une association et qu'on faisait des projets engagés ou solidaires. Alors ça aussi, en fait, on est venu ici à Mistral pour être tous ensemble et faire des projets avec en partenariat avec d'autres associations. Et donc voilà, il y en a d'autres qui ont ajouté des choses, par exemple qu'on faisait des interviews ou alors qu'on faisait des animations dans le quartier. Et il y en a même qui ont dit qu'on était des capsules. Alors je sais pas comment on doit le prendre. Et il y en a même qui ont dit qu'on était solidaires ensemble. Donc c'est vrai que nous, pour savoir un peu qui on était, on a même dû se réunir 3 heures pour discuter, savoir si certains aspects étaient vrais, d'autres pas. Et au final, ben...
Bah, du coup, on s'est posé plein de questions. Hein, parce qu'en 3 heures, on mangeait, etc. Mais on a eu le temps de se poser énormément de questions. Qu'est-ce qu'on faisait vraiment ? Est-ce qu'on était vraiment engagé ? Et ce qui est ressorti, au final, après on peut en discuter rapidement, mais c'est que... on est un groupe d'étudiants qui veut s'engager, qui ne sait pas toujours comment faire, qui est habitant, qui n'est pas toujours habitant, et qui fait qu'on se pose beaucoup de questions sur le quartier et qu'en plus, on essaye de concrétiser des choses dans cet espace-là, sur le quartier.
Je pense que la question principale qu'on se posait, c'était sur le fait d'être habitant ou pas du quartier, parce qu'il y en a parmi nous qui sont sur le quartier depuis longtemps, qui vivent en CAPS depuis longtemps, il y en a d'autres qui sont là depuis peu, et puis on ne vient pas tous de la région. Et du coup, il y a eu aussi cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que d'habiter un quartier, et de participer à sa vie.
À ce niveau-là, il y a quelqu'un qui a ajouté qu'on était des habitants du quartier à part entière. Donc, et qui, c'est une réponse qui ne vient pas des capseurs, donc peut-être un élément de réponse.
En effet, ça peut nous apporter une piste de réflexion, mais pour être un peu plus synthétique, en gros, un capseur, c'est avant tout un jeune qui vient en colocation donc, dans le quartier Mistral et qui cherche à s'engager et à participer à la vie de ce quartier, donc c'est-à-dire à participer à la vie du quartier où il vit. Et maintenant, on peut passer au cœur de notre sujet, qui est vraiment la vie dans le quartier et comment est-ce qu'elle se crée et s'organise. Et donc, on va notamment parler de ce qu'on a pu ressentir et ce que les personnes ont pu exprimer lors des interviews. Donc, on va écouter quelques extraits de ces interviews.
J'habite le Lys Rouge depuis 60 ans. On est arrivé en 53. J'avais 10 ans, je suis allée à l'école Anatole France.
Quand j'étais petite, j'allais à l'école Anatole France. Ben oui, ça a quand même évolué. Moi, j'habitais avant dans les bars. Maintenant, c'est un parking là-bas.
Alors qu'avant, la plupart du temps, on se voyait tous à Lidl, magasin Lidl. Tous les voisins en général, on arrivait à se côtoyer.
Moi, je faisais partie du centre social Mistral, qui existait, il n'existe plus. Voilà, parce qu'ils ont mis des maisons comme ça. Avec les gens de la maison pour tous, on s'aidait tous. Et on arrivait à faire des repas partagés au Lys Rouge pour 120 personnes.
Ce qu'il faut dire, c'est que ces structures-là, avant, étaient au cœur du quartier. Les gens allaient tous les matins, c'était un petit lieu de rencontre.
Ils vont le détruire pour faire encore mieux. Je ne vais pas pleurer.
Ma grand-mère, elle a pleuré pas.
Pourquoi elle a pleuré, ta grand-mère?
Parce que ça faisait 40 ans ou un peu plus qu'elle habitait là-bas.
Bah, c'est une destruction qui n'est pas anodine, parce qu'il y a beaucoup de monde qui habitait cette barre. Il y avait aussi un tabac, un coiffeur, il y a aussi Chamed là.
Une boulangerie aussi là-bas.
On est en plein dedans, c'est pas évident, il reste quelques familles dans cette immense barre.
Je voulais d'abord remercier Juliette quand même d'être venue nous présenter les réponses par rapport aux capseurs.
Alors du coup, dans cet extrait, on entend des habitants qui parlent de ce qu'était le quartier avant et des changements qu'il y a eu. On constate aussi qu'il y a des personnes qui vivent dans le quartier depuis très longtemps. Merci. Du coup, je vais en profiter pour commencer par m'adresser à Karim du Coamis, qui est un collectif d'habitants sur le quartier, dont le but, si j'ai bien compris, le but principal à la base, est de promouvoir en fait le lien social à travers des activités. Par exemple, ils ont organisé des vide-greniers, des repas partagés, et avec les CAPS notamment, à l'occasion d'une des journées des droits des femmes, des CAPSors ont pu participer à la lecture de poèmes avec des membres du Coamis. Alors du coup, première question, est-ce que vous-même et les membres de votre collectif êtes des habitants de longue date dans le quartier? Et ensuite aussi, du coup, pourquoi est-ce que le Coamis s'est créé à la base?
Bonsoir à toutes et à tous. Le Coamis est né presque tout à fait naturellement. Nous étions une dizaine de personnes qui nous sommes soulevés contre la fermeture du commerce de proximité, notamment la mini-surface de Lidl. Ensuite, pendant un an et demi, nous avons continué à œuvrer pour le bien-être et ce slogan qui est devenu malheureusement générique, tout simplement, le mieux vivre ensemble. Nous avons, au sein du Coamis, de changer, de vraiment vivre ensemble, mais de façon concrète, sur le terrain. Et pendant 12 ans, nous sommes restés un groupe de personnes. Et puis, nous sommes donc les gens, ils nous regardaient avec le petit bout de la lorgnette. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi? On est peut-être un peu fous. Hein, mais finalement, la solidarité prime. Et grâce un peu aussi aux capseurs, parce que c'était au moment de l'arrivée des caps sur Mistral, que nous avons, notre mouvement a pris l'ampleur de solidarité. Nous avons travaillé beaucoup avec les capseurs lorsqu'il s'agit de la navette solidaire. toujours suite à la fermeture de commerce. Nous avons les fêtes du voisin qui n'a pas eu lieu ou il y a eu lieu de façon inaperçue. Nous l'avons donné l'impact qu'il fallait, toujours avec l'aide des capseurs. Et puis, le dernier grand événement, c'est la fête du quartier de Mistral qui a disparu depuis pratiquement 20 ans, depuis 1995. Depuis 1995, oui, c'est bien ça. Et en 2015, nous l'avons remise en chantier et il a eu l'impact que tout le monde attendait. Bien que souvent, personne ne croyait. Mais grâce à toutes les structures, hein, ce n'est pas uniquement la nôtre, mais aussi les autorités locales, telles que l'AMDH, qui nous ont aidés beaucoup, beaucoup, ils continueront toujours. Et puis, il y a un point que je regrette personnellement, avec nos relations avec la FEV, et notamment avec les CAPS, c'est que les CAPSeurs deviennent, ils séjournent très peu, c'est-à-dire une seule année. Et beaucoup de projets que nous avons entamés ou nous sommes en cours de réalisation avec eux, ça n'a jamais abouti, je ne sais pas tellement le mot, mais ils n'ont pas beaucoup abouti. Et le résultat n'était pas escompté parce qu'à la fin, ils partent. Voilà. Jusqu'à présent, au début, les CAPSeurs restaient à peu près 2 ans, voire 3 ans, avec les dirigeants de la FEV qui sont aussi à une période assez longue. Maintenant, on ne les voit pas.
Est-ce que vous avez une réponse peut-être à faire à Karim sur le fait que les CAPS ne restent pas longtemps? En quoi ça peut être aussi peut-être un avantage? Je ne sais pas.
C'est vrai que c'est assez compliqué parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui nous pose question. On est assez jeunes. On est étudiant, donc on bouge beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'on s'interroge aussi sur le fait si on est vraiment habitant et à quel point. C'est sûr que ça doit être compliqué aussi, des fois, de voir juste des gens qui sont de passage, qui s'investissent un temps court, mais qui ne sont que là que pour un temps court. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être amélioré, mais qui ne pourra pas être changé, parce que fondamentalement aussi, c'est le mouvement des étudiants qui ne s'installent pas définitivement. Ils passent.
Je le pense, mais d'ailleurs, j'en parle à chaque rencontre que nous avons, aussi bien avec les élus, avec nos concitoyens, que votre engagement de 6 mois, de 8 mois, c'est pas assez.
Après, c'est vrai que du coup, à long terme, c'est plus compliqué de construire des choses, mais ça ne veut pas dire que des projets à court terme ne peuvent pas être faits. Puis je pense aussi que du fait d'avoir des capseurs qui bougent constamment, et ça fait aussi une forme de dynamisme, avec des nouvelles têtes qui sont toujours là, et qui sont constamment là, et aussi des profils, des gens de profils différents chaque année. Enfin, j'essaie de voir du coup le verre à moitié plein, mais
c'est un beau débat, c'est une belle question, c'est une question que les capseurs se posent souvent, enfin, en tout cas de ce que j'ai entendu, hein, je fais pas partie des caps, mais j'aimerais bien qu'on laisse aussi les filles se présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous avez envie sur vous?
Bonsoir. on a créé une association qui s'appelle Maya.
Alors, du coup, on a prévu, en fait, hein, de parler de votre association, mais on s'est dit peut-être un peu plus tard. D'abord, est-ce que tu as une question
moi,
à leur poser?
Une petite question, parce que vous êtes jeune, on est aussi jeune, mais peut-être un peu moins. On a entendu plein de trucs, là, entre Karim et les reportages, qui sont vieux, qui datent un peu, qui ont plus de 15 ans, on va dire. Ça commence à dater, peut-être. Et donc, vous, comment est-ce que vous le voyez, ce quartier d'avant? Qu'est-ce que vous avez comme image?
Il est très bien.
Mais est-ce que avant il y avait... est-ce que vous avez eu une image particulière de ce que c'était il y a peut-être 40 ans, il y a peut-être... ou 20 ans?
C'était mieux avant.
Parce que... Qu'est-ce
qui te fait dire ça? Pourquoi tu dis c'était mieux avant?
C'est parce que ça a changé, c'est plus pareil.
Pourquoi tu dis ça, c'était mieux avant? On t'a dit ça, que c'était mieux avant, ou c'est un
constat?
Non,
parce que j'ai grandi, moi, dans ce quartier, ouais. Et avant, c'était mieux. Ça a tout changé, même les constructions et tout ça, c'est plus pareil qu'avant. C'était mieux avant.
Tous les anciens, ils partent?
C'est plus pareil. Même les habitations et tout ça, c'est pas pareil. C'était mieux avant.
Qu'est-ce que tu préférais, en fait, avant, par rapport à ce qu'il y a maintenant?
L'ambiance.
Mais non, mais pas par rapport à l'ambiance, mais même c'était mieux avant, on avait... On avait une grande bibliothèque, on avait un city à côté, on avait un grand gymnase aussi qui était à côté, on avait tout avant. Mais là, tout est construit, le gymnase il est là-bas, maintenant il y a un petit parc, un petit city, c'est pas pareil. C'était mieux avant.
Et du coup, on a commencé à parler très rapidement d'ambiance. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce qu'on a parlé plus donc, de tout ce qui était repas partagé, etc.
Ouais.
Est-ce que vous avez eu des échos? Ou est-ce que comment est-ce que vous voyez ces temps d'échange qui existaient et qui ont l'air de peut-être moins exister maintenant? Comment est-ce que vous voyez ces temps qui étaient entre habitants dans le quartier? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a toujours des temps comme ça? Ou est-ce qu'avant c'était vraiment mieux, il y en avait vraiment plus?
C'était mieux avant. C'était mieux avant. Tout, même ce qu'ils faisaient, les fêtes du quartier et tout, c'était mieux avant. Maintenant, les fêtes du quartier, il n'y a pas trop de monde qui y vont. C'est pas pareil. Avant, c'était mieux. C'était bien organisé. C'était mieux avant.
Ok, donc, du coup, avant de passer à des nouvelles questions, on voudrait peut-être vous faire écouter d'autres extraits d'interviews.
Je connais beaucoup, beaucoup de quartiers, mais notre quartier, il y a une soudure dans notre quartier.
Tout le monde, il se connaît, enfin, toutes les mères, tous les enfants, ils se connaissent.
Enfin, il y a une bonne ambiance.
Les associations, ils font beaucoup, beaucoup pour tout ça.
Il y a un truc qui me plaît, l'association du Rocher.
Moi aussi, il y a un truc qui me plaît, c'est mon club de foot, le FC Mestral. Il y a le plateau et il y a la piscine Vaucanson.
Ce qui est sympa aussi, c'est quand on fait des petits repas partagés. Alors là, on fait un peu plus d'efforts, on fait soit un cake, ou voilà, pour partager, c'est toujours agréable.
On combattra ce côté, la peur des autres, le lien social, juste en partageant la culture de cuisine entre cultures différentes.
Il y a un jour, pendant le Ramadan, je crois, quand on plus notre jeûne, genre en fait à la salle polyvalente de Mistral, et ben ils font un repas pour tous. Et genre chacun ramène un plat, tout ça. Et à la fin, ben en fait on mange tous. Et en fait il y a n'importe qui peut venir, même ceux qui n'ont pas fait le jeûne, et tout le monde est invité quoi.
C'est un passage qui est très intéressant après le début de discussion qu'on a eu, parce qu'on voit que d'autres disent qu'aujourd'hui le quartier c'est toujours une diversité, c'est de l'action, du mouvement. C'est le club de foot, c'est le plateau, c'est... Et en plus, c'est quelque chose qu'on a vu aussi, qu'il y avait beaucoup d'actions. Donc, parce qu'on a fait des interviews à l'atelier vélo, au marché solidaire, auprès des bénévoles du Rocher. Donc, dedans, je pense qu'on a senti, et je pense que c'est quelque chose qu'on entend ici, qu'il y a un vrai lien entre les habitants et... Qu'est-ce que c'est que votre point de vue, je sais pas qui veut répondre, donc sur ce lien et cette diversité?
Oui, il y a maintenant, malgré tout, cet enclavement géographique de Mistral, il y a quand même cette solidarité intramuraux et maintenant extramuraux également. Hein. Là, tu viens de parler du Rocher, du plateau, que sais-je encore, il y a beaucoup de... Les projets individuels ou, appartenant à une association, lorsqu'il devient pour le bien social, ben, il devient la propriété de toutes les structures qui existent sur Mistral. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, parce que l'élan que chacun de nous a, il se perd un peu de l'autant. Et malheureusement, l'urbanisme oblige aussi, il faut dire. Hein. Depuis 1995, que toutes les autorités locales, toutes les municipalités, hein, quelle que soit leur appartenance politique, ils ont toujours un point commun, c'est aller sortir Mistral de cet enclavement. Mais uniquement sur le plan urbanisme. Sur le plan humain, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire, aussi bien nous en tant qu'acteurs sociaux que les autorités qui nous gouvernent.
Vous voulez dire que vous pensez qu'il y a de l'enclavement à Mistral, mais que la solution, ce n'est pas forcément la rénovation urbaine, ou du moins pas seulement en fait?
Non, moi, je déplore une chose. Ici, le plateau, par exemple, ah ben, il y a les jeunes, c'est vrai, c'est son objectif. Le jeune, adolescent ou préadolescent. Après, on ne le voit plus. Nous avons la maison de l'enfance, c'est l'enfance. Si quelqu'un de nous va demander quoi que ce soit, non. Si tu as 10 enfants, ok, tu n'as pas. Ça n'entre pas dans notre cadre. Le seul qui travaille beaucoup, et je le dis, et ça je fais une petite pub pour notre film qui va être diffusé le 16 décembre à la salle polyvalente, où il y a toute l'histoire de Mistral, de 1970 à nos jours, où j'ai mis en exergue, bien sûr, le rôle du plateau, mais aussi le Prunier Sauvage. Le Prunier Sauvage, c'est la seule association qui peut, que tout le monde peut accéder. Aussi bien par la culture, par les repas partagés, donc à travers leur club des spectateurs, et les jeunes musiciens qui ne peuvent pas accéder à d'autres structures plus hautes, bien sûr, ni à la télé, ni à la radio, mais le Prunier Sauvage, il est là pour ça. Et puis, nous, on est là pour les pousser également, pour les aider, pour les encadrer, en quelque sorte.
Mais du coup, vous voulez dire qu'en fait, il n'y a peut-être pas de mélange intergénérationnel, en
non.
fait.
Non, il y a une
coup,
coupure.
Je voudrais juste demander aux jeunes filles si elles ont la même vision. Est-ce que vous trouvez que, du coup, dans le quartier, les personnes ne se mélangent pas des différents âges ? Les enfants restent avec les enfants, les ados avec les ados, les personnes âgées avec les personnes âgées. Est-ce que vous avez cette impression aussi ?
Non, on reste tous ensemble.
Et donc, c'est quoi les lieux de rencontre ? Enfin, parce qu'on a parlé du Prunier. Pour vous, c'est où auquel tout le monde est ensemble ?
En bas de chez nous, le plateau.
Le plateau.
C'est le plateau. Prunier Sauvage, ma part, il n'y a personne qui va là-bas, le plateau, on est tous là.
Il y a d'autres endroits que vous fréquentez dans le quartier, à part le plateau ?
Le Sentier du Savoir.
Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés.
Il y a une chose aussi que je dois rajouter, c'est ce mélange intergénérationnel. Moi, je l'ai remarqué lorsque nous avons fait nos deux manifestations revendicatives, bien entendu, et surtout la manifestation Je suis Mistral, où j'ai vu tout le monde, toutes les générations d'école primaire jusqu'à 80 ans. Hein, ils étaient tous sur un seul mot d'ordre, fiers d'être Mistraliens. Ouais. Pourquoi ne continuons pas cet élan ?
Bah, quand on écoute les reportages, on a quand même l'impression que tout le monde est fier, que la plupart des personnes sont fiers d'être Mistraliens quand même, des jeunes, des personnes âgées. Tout le monde parle d'un lien fort en fait entre les habitants, de solidarité. On a même entendu soudure au début.
Est-ce que vous pensez comme ça qu'il y a que tout le monde est Mistralien et qu'il y a un lien fort justement entre les Mistraliens ?
Pas bien. Oui. Mistral quoi.
Moi, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît à Mistral ?
Tout. C'est Mistral, quoi ?
Tout.
Si vous deviez décrire, du coup, le quartier à quelqu'un que vous connaissez pas, enfin, et qui connaît pas aussi Grenoble, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Super cool.
Mais est-ce qu'il y aurait un truc génial au-dessus qui serait vraiment à dire ?
Le plateau.
Le plateau a du succès, hein, ce soir. Et du coup, on est au plateau, hein, justement.
Et parce que le plateau, quand même, c'est en quelque sorte la place centrale. Hein. Il fait les liens entre les Eaux Claires, les Eaux Rouges et Mistral. Hein. Et ça, c'est une politique que la ville, depuis M. Hubert Duboudou, depuis Carignan, depuis Desto et maintenant M. Piol, il continue quand même à ce que Mistral soit vraiment intégré.
Les filles, vous faites quoi quand vous venez au plateau ? Du coup, parce que donc on dit le plateau, mais qu'est-ce qu'on fait au plateau en fait ? Pourquoi on vient ?
On en fait ce qu'on veut. En fait, à chaque fois qu'on veut établir une sortie, ben, on va voir nos animateurs. Si on veut faire de l'ordinateur ou aller sur les ordinateurs, ben, on demande aussi.
Même pendant les vacances, ils nous font faire des archives, par exemple en Espagne, à Toulon.
Des camps.
Des camps ski.
Par exemple, on est inscrit aux sorties ski pendant les vacances.
Et du coup, vous avez dit aussi que c'était un lieu où on pouvait tous se rencontrer entre les âges. C'est pas aux sorties ski, j'imagine. Mais c'est quand que tout le monde se rencontre ?
Bah dans tous les jours.
Quand c'est centre de loisirs ?
Tous les jours. En haut, aux cyberbases, de partout.
Moi, j'ai l'impression que la cuisine et le repas partagé prennent une place quand même importante dans le quartier. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on a été à l'atelier cuisine qui a lieu à la Maison des Habitants. Mais c'est vrai que même quand on a fait des interviews ailleurs, par exemple à l'aide aux devoirs organisée par le plateau et les sentiers du savoir, on nous a parlé, plusieurs personnes en fait, nous ont parlé de repas partagés qui s'organisent dans le quartier. Et du coup, je sais pas, est-ce que vous avez cette impression aussi que les gens se rencontrent autour de la nourriture, autour de repas? Par exemple, le Coamis, vous organisez des petits déjeuners en bas de la tour.
Oui, là, ça fait un moment qu'on parle de repas partagés. À vrai dire, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai, dans le cadre du train d'action pour accompagner le relogement de la barre d'Antoine France, nous avons proposé ça, un moment convivial, un petit déjeuner tous les jeudis matin. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui passent quand même. Hein. Malgré eux, nous les appelons, nous les interpellons, nous les affichons. Ils se demandent déjà pourquoi. Tiens, pourquoi il y a un petit déjeuner gratuit et alors nous sommes encore... Voilà, et ça rentre encore dans l'esprit des gens qui ils se ressentent un peu laissés pour compte. Et nous, on vient, tiens, un petit déjeuner. C'est vrai, comme le proverbe chinois, il dit, tu me donnes un poisson, je mange un jour, mais tu m'apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. Là, le petit déjeuner, il ne va pas être éternel. Donc, je ne sais pas, au mois de mars, au mois d'avril, on arrêtera, hein, quand il n'y aura plus personne. Mais cette convivialité ou cette solidarité, de parler, il y a comment de parler, parce qu'il y a pas mal de gens, malheureusement, ils s'enferment entre eux-mêmes. Et ça, c'est notre grand, grand, grand combat. Pas uniquement au Coamis, dans toutes les structures du Mistral. Hein. Nous n'arrivons pas à les faire sortir comme il fut un temps où la petite placette, là, qu'on appelle maintenant la prairie, elle était animée tous les jours.
Comment ça s'est venu l'idée des petits déjeuners pour rassembler les gens?
Tout simplement parce que nous sommes interpellés tous les jours. Les gens, individuellement. Parce qu'ils ont peut-être le contact avec tous les acteurs, hein, pas uniquement les dirigeants de Coamis. Ils nous parlent, ils nous font confiance parce que nous sommes des leurs, nous sommes parmi eux. Et cette idée-là, c'est, je crois, la secrétaire qui a proposé de réunir ces gens, le peu de gens qui restent sur la barre Anatole France, autour de. Et puis la métro acceptée, que nous remercions d'ailleurs, et bien sûr avec l'aide de l'agent de développement de l'AMDIH qui nous aide beaucoup.
Du coup, effectivement, les rénovations urbaines ont commencé depuis, il me semble, 2011 à peu près. Et non, plus...
Plusieurs années.
Ouais, bon, désolée. Du coup, effectivement, en 2017, il va y avoir la démolition de la barre d'Atoll France. Et visiblement, d'après ce que vous dites, cette démolition, le fait qu'il y ait des personnes relogées qui sont parties... Ça a eu visiblement un impact, enfin un écho en tout cas, des échos chez les habitants, chez vous en tant qu'habitants, chez vous aussi en tant que collectif, dans vos actions, par rapport aux petits déjeuners qui ont été du coup mis en place. C'est très certainement, enfin c'est plutôt une question, mais du coup est-ce que c'est lié?
Non, mais le petit déjeuner c'est un des facteurs de solidarité et de sensibilisation. Hein. Maintenant, le problème du relogement, ça ne nous encombre pas, nous. Hein. On les suit, de façon. Mais personnellement, j'ai tiré déjà le signal d'alarme. Nous avons bénéficié de ce facteur depuis la démolition des 4 bars, il y a quelques années déjà. Hein. Et nous avons que tout le monde n'ont pas été suivis de la même façon. Et moi, j'ai tiré le signal d'alarme sur le plan psychologique. Continuons à suivre ces gens. Parce qu'ils sont un peu déracinés, en quelque sorte. Et nous avons vu beaucoup ceux qui partent, mais ils sont revenus. Ils sont revenus parce qu'ils ont un attachement à Mistral. Et ça se passe exactement de la même façon pour Paul Strauss, pour Anatole France. Bien sûr, il y en a beaucoup qui... Le problème, il n'est pas le même. Hein. Il y en a beaucoup qui sont très heureux de partir. Ils me disent, même tout à l'heure, il y a une dame qui me dit, oh là là, je suis contente, seulement, je ne parle pas à mes voisins. Elle est partie vers Corboria, mais elle se sent isolée. Alors qu'ici, à Mistral, qu'elle monte au 10e étage ou elle descend au 1er, tous les voisins, on parle. Et cet échange, échange culinaire, échange culturel, échange des rencontres de vacances, etc. Alors maintenant, elle est à Corboria, mais elle est plus isolée. Bien sûr, l'appartement, il est joli. Et c'est ce facteur-là que j'ai toujours tenu à ce que nous prenons en charge les personnes relogées, qu'elles soient intramuros, à Mistral ou à l'extérieur.
On va juste poser une dernière question aux filles et après on va passer la parole au public quand même. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé des rénovations spontanément, du fait que ça change le quartier et que c'est moins bien, puisque vous avez dit c'était mieux avant. Du coup, qu'est-ce que ça change en fait, ces transformations? Qu'est-ce qui fait que c'est moins bien? Parce que c'est les immeubles.
Y a presque plus personne qui participe comme avant.
Il y a tout le monde qui veut partir.
Qui veut partir?
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il y avait avant ou qui a été déclenché et augmenté par la rénovation urbaine?
Par la rénovation. Avant, c'était pas comme ça, il y avait tout le monde qui restait, ça a changé, il y a tout le monde qui part.
Le changement des habitants, quoi.
Ouais.
On va passer la parole au public, s'il y en a qui ont envie de poser des questions, que ce soit aux invités ou aux capseurs.
Bonsoir. Alors, je m'appelle Achour Ali. Donc, je dis que c'est très bien ce qu'ont dit en dernier les filles par rapport au relogement, que tout le monde a envie de partir, c'est vrai. Il y a un vide quelque part. Juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux 4 bars, au relogement et tout, juste préciser que pour les 4 bars, il y a des personnes ici qui ont travaillé avec moi à l'époque. On faisait partie de l'Union Quartier Mistral. On a travaillé longuement sur ce projet, sur la charte de relogement à l'époque. Juste pour dire que le relogement, il s'est très bien passé. Où la plupart des gens, au départ, ça a été dur, mais à la fin, les gens ne sont pas venus nous reprocher quoi que ce soit sur le travail qu'on a fait. Au contraire, il n'y a pas eu de quoi que ce soit ou de négatif, mais que du positif. Voilà. Et par rapport au relogement de la barre Anatole France, on constate aujourd'hui que je constate personnellement que le relogement, il se fait vraiment vite fait, vraiment rapide. Donc ça veut dire que les gens, aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont contents de partir. Qu'on se le dise pour nous-mêmes. Et quoi qu'il en soit, bon, après, on sait tous qu'il y a eu des problèmes dans le quartier. Donc c'est pour ça que les gens, plus ils trouvent l'opportunité de partir et trouver une vie en dehors du quartier et revenir dans le quartier en parallèle, mais repartir, trouver un autre logement pour pouvoir se poser autrement. Oui, ça, on l'a constaté aussi. Voilà. Juste pour dire que nous, dans les 4 bars, on a quand même galéré pour le relogement. Mais à la fin, on a galéré et ça a été long, plus long que prévu. Pas comme aujourd'hui, la barre Anatole France, il faut savoir qu'il n'y avait que 100 logements. Nous, à l'époque, il y avait 280 logements. C'était donc un travail qui était très difficile, mais que les gens ne nous ont pas reproché quoi que ce soit, juste pour information. Et que le logement aujourd'hui sur la barre Anatole France, elle est quand même rapide.
Le problème de relogement, encore une fois, personne. Et il y a un service de relogement de la part d'Actis, de la part de la mairie, de la part des professionnels pour ça. Mais, encore une fois, à la SAD Bar, il en reste encore, je pense, 27 familles à reloger. Et il y a deux facteurs qui se posent. Facteur financier, et puis, je vous dis, le facteur aussi d'appartement. Les personnes, aujourd'hui âgées, qu'ils ont des enfants et de petits-enfants, qu'ils ont un 9-4. On leur propose un 9-4 qui paye à peu près 400 euros, je schématise, et on propose un 9-2 pour 600 euros. Ce facteur financier, c'est un gros, gros problème. Et ce n'est pas à nous. C'est vraiment aux professionnels de relogement de trouver.
Moi, je voulais juste féliciter l'association des jeunes filles, l'association Maya, là. Elles donnent leur avis, mais c'est assez difficile de parler comment c'était avant, parce qu'elles ont 14 ans. 14 ans, on a très peu de recul par rapport à ce qui s'est passé avant. Elles ont tout l'avenir, ces jeunes de Mistral, elles ont beaucoup d'idées et on compte beaucoup sur elles, tant au plateau que le travail qu'on mène avec MDH, avec Arnaud, sur l'accompagnement d'associations. Ces jeunes filles, elles ont plein d'idées et j'espère que cette année et les années qui vont venir, elles vont donner leurs idées sur comment elles vivent Mistral et comment elles ressentent Mistral. Voilà, en tout cas, félicitations à vous les filles.
On va leur donner la parole pour expliquer plus concrètement le projet juste après. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, peut-être plus sur le lien social aussi, la solidarité? Ouais, tu veux parler?
Je voulais dire que les filles ont raison. Et c'est vrai que ça est énormément changé par rapport à avant. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça.
Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant?
Avant, c'était plus comme ça. Comme les filles ont dit, il y avait la bibliothèque et tout ça. Et maintenant, ils vont démonter, par exemple,
les meubles juste à côté de la tour jaune. Et aussi, c'était mille fois mieux avant parce que, en plus, là maintenant, ils ont enlevé un truc, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon, c'était juste pour redire ça et voilà.
Merci. C'est vrai que vous avez parlé de la bibliothèque, du coup, je me demandais, vous allez où à la place ?
Nulle part.
Et toi, tu vas où à la place de...
De quoi ?
Bah, vu que tu peux plus aller à la bibliothèque, tu vas où à la place ?
Nulle part.
Ok.
Toi, tu vas où ?
Dehors, partout.
Vous aviez quand même évoqué rapidement les sentiers du savoir. Donc, est-ce que vous allez nulle part ou c'est un espace où vous pouvez aller au sentier du savoir ?
Mais c'est pour l'aide au devoir, ça, le sentier du savoir.
Oui, mais c'est aussi pour pouvoir se mettre à un endroit calme, au calme justement.
Ben non, pour être au calme, on va au plateau. Le sentier du savoir, c'est que pour les devoirs.
Oui, au sentier du savoir, on n'est pas là pour boire du thé.
Ils veulent même pas qu'on parle là-bas, c'est que pour les devoirs.
D'accord, donc on pourra passer maintenant à notre deuxième partie d'émission. Donc merci beaucoup à vous tous qui avez brillamment fait cette première partie. Et donc on va passer à la seconde partie qui est plus sur votre projet. Donc,
sur l'avenir.
Sur l'avenir et du coup sur votre association Maya.